Une rubrique historique un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la suite d'un entretien réalisé à l'été 2011 avec Pavla Jazaïrova. Nous l'avions rencontrée à l'époque pour parler de son expérience à la rédaction française de la radio tchécoslovaque dans les années 1960, à l'occasion des 75 ans de Radio Prague. Mais Pavla Jazaïrova est loin de s'être limitée à cette seule expérience. C'est aussi une vie et une expérience hors du commun. Radio Prague vous emmène aujourd'hui avec elle sur les traces de son enfance, de sa jeunesse sous le communisme, mais aussi sur les routes de l'Afrique et des pays arabes des années 1970 à nos jours. Pavla Jazaïrova est au micro d'Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire.
Pavla Jazaïrova, vous êtes journaliste radio, écrivain, et alors vous avez une vie riche et pleine quand on s'intéresse un petit peu à votre biographie. Vous avez donc travaillé à la rédaction française de Radio Prague pour les émissions pour l'Afrique. Alors il faut préciser, on en parlait tout à l'heure hors micro, que vous êtes né en 1945 à Münster, oui, en France, et que c'est un peu le fruit du hasard, du coup.
Tout à fait, parce que ma mère et mon père étaient en Allemagne, ils ont eu le temps de traverser le pont du Rhin, et ensuite il y a eu le bombardement de ce pont.
Et vous, ils sont restés coincés derrière.
Et Mulhouse, enfin, ils n'étaient plus coincés puisqu'ils étaient en France. Ensuite, ma mère, parce que ma mère était tchèque, mon père était hollandais, et les écoles supérieures étaient fermées. En ce moment-là, les nazis ont fermé les écoles supérieures et ma mère a été envoyée en Allemagne. C'est là où elle a rencontré mon père. Elle est tombée enceinte, me voilà, et elle a terminé ses études de médecine à Paris.
Et vous, alors, votre enfance, vous l'avez passée où? En France, en Tchécoslovaquie, entre les deux, quelque part?
Entre les deux, c'était abominable. On m'envoyait par le train, on m'envoyait n'importe comment. Ma grand-mère maternelle et ma mère à Paris. Alors, je faisais tout le temps la navette. On ne m'a pas laissé terminer une seule année scolaire dans un même pays. Vous vous rendez compte?
Est-ce que c'est un peu ce ballottage incessant entre des pays qui vous ont donné finalement aussi la bougeotte, finalement
et oui, qui... oui, parce qu'en fait de compte, quand on éduque, on élève un enfant comme ça, on le forme d'une certaine façon. Et vous savez, j'avais, je ne sais pas, j'avais 7 ou 8 ans, j'allais à Prague, à la police, là, demander, je veux partir voir ma mère. On m'a envoyé faire mes papiers toute seule. J'avais, je ne sais pas, 8 ans. Je trouve que c'est incroyable. En fait, ça marchait d'une certaine façon, apparemment.
Étonnamment. Et alors, comment est-ce que vous avez pu voyager pendant la normalisation
Pendant la normalisation, je disais que mon père était hollandais et mon frère est citoyen néerlandais. Il était toujours citoyen néerlandais. Les Néerlandais n'ont pas voulu de moi. Pourquoi? Parce que c'était la guerre. C'est ce qu'on pense. Et les hommes, dont la population masculine, étaient plus ou moins décimés. Et puis, au moment où je suis née, mon père n'était pas encore divorcé de l'ancienne femme. Alors, il m'a reconnue, mais mon père et ma mère se sont mariés plus tard. Voilà.
Et maintenant, vos parents vivent, enfin, ou en tout cas...
Mes parents sont morts, et mon frère, qui a vécu en Hollande, alors mon frère m'invitait des invitations truquées, en fait. J'invite ma sœur à faire ensemble un voyage au Togo. Il n'est jamais allé au Togo, naturellement, que je finance entièrement, naturellement, bien entendu, rien du tout.
Donc vous partiez après vous-même, vous
oui,
prenez la route toute
voilà,
seule.
Voilà, voilà. Alors, en ce moment-là, c'était comme ça. J'étais déjà vidée de la radio. Donc, j'avais une profession libérale, je travaillais comme interprète, et j'allais au comité national, c'est là où on devait aller. Il y avait une vieille dame, et je disais, je veux visiter mon frère, blablabla. Et sur le papier, en question, elle m'a donné un tampon, en écrivant, nous sommes d'accord, ou pas d'objection. Comme ça, je pouvais, naturellement, sans avoir le droit de changer de l'argent, à l'époque, on changeait l'équivalent, je ne sais pas, de 15 euros, ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas le droit de changer davantage. Donc, j'allais avec 15 euros en poche. L'argent, je me le procurais. On achetait au noir l'argent ici. Mais c'était toute une histoire pour exporter l'argent. Mais c'était très amusant parce que j'étais interprète. Et par exemple, je me souviens d'avoir travaillé avec Gilbert Bécaud. et avec Hugo Frey aussi.
Donc des grands chanteurs français.
Ah, oui, voilà. Et il y avait des musiciens, donc toujours dans le groupe, et comme ça on bavardait. Et je me souviens d'avoir demandé à un musicien, je pense que c'était Gilbert Bécaud, Hugo Frey, je ne me souviens plus. Enfin, c'était un gars, j'ai dit, est-ce que tu serais gentil de transporter cet argent pour moi à Paris? Et je vais te téléphoner quand j'arrive à Paris. Voilà, il a dit oui, sans problème. Et quand j'ai appelé son numéro parisien, on m'a répondu, ce numéro n'existe pas. Alors j'ai rappelé, et le numéro existait, le gars était là, il était extrêmement gentil. Et mais on voyageait avec trois fois rien, on voyageait en autostop.
Et du coup, vous êtes arrivé, vous alliez comment en Afrique, à partir de la France, hein, c'est ça, après?
À partir de la France, à partir de l'Espagne, en autostop.
Et vous partiez combien de temps, par exemple?
Trois mois. Oui, on arrivait au Maroc, on traversait Melilla, Malaga Melilla, on traversait par là et on continuait en Afrique du Nord. Disons que c'était vraiment pas confortable, parce que naturellement, pas question de dormir à l'hôtel ou de manger au restaurant.
C'était impossible. À la dure. Hein.
C'était vraiment à la dure. On avait à l'époque 10 dinars algériens par jour, donc on pouvait s'acheter du pain et soit une boîte de sardines, soit du lait condensé.
Oui, c'était très frugal comme repas.
Voilà. Et, mais les gens étaient extrêmement hospitaliers à l'époque. Et c'était très intéressant de voyager alors. Parce que juste l'époque de Bourguiba, après l'indépendance. Donc moi, j'ai vu l'Algérie juste après l'indépendance. J'ai vu comment ça s'améliorait et comment ça se détériorait. Je suivais le mouvement et j'ai beaucoup appris. Et comme ça, nous sommes allés jusqu'en Afrique occidentale, jusqu'au Togo, etc. On a voyagé comme ça. Naturellement, en Afrique occidentale, pas en autostop, il fallait payer les taxis de brousse.
Et du coup, alors vous qui connaissez justement l'Afrique depuis ces années-là et qui avez vu justement cette évolution, comment est-ce que vous percevez justement cette évolution depuis ces années-là, ce qu'est devenu l'Afrique aujourd'hui?
L'Afrique était belle alors. Alors que maintenant, avec la globalisation, c'est le désastre. Parce qu'il y avait des métiers et les gens, souvent, on visitait des marchés où il n'y avait même pas d'argent. Il y avait, l'argent n'existait pas. C'était l'échange, le troc.
Le troc, oui.
Oui. Et maintenant, aujourd'hui, avec toutes les marchandises, surtout qui viennent de l'Asie, qui sont de mauvaise qualité, avec les sacs en plastique. Alors, vous savez, ce sont des petits détails comme ça. Les sacs en plastique, on les jette. Ça bouche...
Les canalisations.
Le paludisme revient. Les gens, les métiers, ça n'existe plus parce qu'on achète tout ça. Les personnes qui vivaient de leur métier n'ont plus de travail. Alors les gens font n'importe quoi, un petit peu n'importe quoi, et ils n'ont pas vraiment de perspective. Si, c'est très grave en Afrique.
Vous avez énormément voyagé en Afrique, mais également vous connaissez le Proche-Orient, vous connaissez l'Inde.
Oui, oui.
Et alors vous avez été justement mariée
avec un Irakien qui plus tard était ministre de la Culture.
Voilà, qui était
après
journaliste
la chute de Saddam, qui est journaliste. On s'est rencontrés à la radio.
Et à l'époque, finalement, se marier avec un Irakien, avec un étranger, c'était pas mal perçu, je sais pas, justement à l'époque, sous le communisme.
Eh bien, naturellement, il y avait toujours du racisme, mais c'était un autre type de racisme, parce que un étranger en République socialiste tchécoslovaque était perçu comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, pas du tout le contraire. Mmh. C'était quelqu'un qui venait, qui avait des devises, qui pouvait s'offrir tout ça, etc., le luxe. On les enviait naturellement, pas les Cubains ni les Vietnamiens, mais les Africains, les Arabes, tout c'était des nababs. Mais moi j'étais, enfin je faisais pas vraiment partie, mais les jeunes de mon âge me regardaient à travers un snobisme. Moi-même j'étais différente. J'étais
déjà
très
par
différente.
J'étais très différente.
En fait, ce n'est pas par hasard que j'ai rencontré Mofid, parce qu'il était étranger, moi, d'une certaine façon aussi.
Grâce à toute cette expérience finalement de voyage, de rencontre, aujourd'hui on fait toujours appel à vous, à la radio, à la télé, dès qu'il se passe quelque chose au Proche-Orient.
On fait appel à moi,
c'est important pour vous de transmettre aussi vos connaissances.
Évidemment, c'est très important, surtout maintenant pendant le printemps arabe, parce que l'islam, les arabes sont très mal vus, et les Français n'imaginent pas de quelle manière on informe ici en République tchèque, c'est vraiment immonde. La manière dont on parle des musulmans.
Vous-même, justement, quand on vous demande ce que vous pensez du printemps arabe,
vous
répondez quoi, justement?
Que les gens veulent la liberté. C'est quoi la liberté? La même chose pour tout le monde.
Finalement, on pourrait faire l'analogie, en plus, parce que le nom est très semblable avec ce qu'avait finalement la révolution de velours. Il veut la même chose.
Évidemment, bien entendu. Bien, naturellement, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe et difficile.
Ça demandera plus de travail.
Mais ça demandera un travail immense. C'est une autre société. C'est les influences, les intérêts, la situation géopolitique, tout ça. C'est très compliqué maintenant ce qui se passe en Syrie. C'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas que la Syrie qui est appliquée.
Vous êtes allé justement récemment dans un des pays de la région ?
Oui, j'étais il y a un an, j'étais en Égypte.
Et vous avez senti quelque chose qui se passait ?
J'ai senti. D'ailleurs, la situation s'était beaucoup dégradée en Égypte. Je n'étais pas venue, 10 ans, je n'étais pas venue en Égypte. Et là, j'ai senti vraiment que ça se dégradait, que c'était un régime répugnant. Les gens en avaient marre. Et puis, ils avaient besoin de vivre. Et ils étaient dans la misère. Vraiment, ils étaient dans la misère, même la classe moyenne.
Qu'est-ce que vous apporte encore aujourd'hui vos voyages ?
Ça m'amuse d'abord. Ça m'intéresse toujours, ça me fatigue aussi. Naturellement, il y a des choses, c'est un peu prétentieux, mais j'en ai tellement vu qu'il y a des choses qui ne m'intéressent plus tellement.
Alors, on va finir tout doucement. Je voulais encore vous demander, on le disait, et puis on s'en rend compte en parlant, évidemment, vous avez donc sillonné un peu la Terre, et finalement, vous avez choisi de vivre hors de Prague, dans le nord de la Bohème, voilà, dans une petite campagne. Maison de campagne. Est-ce que c'est justement parce que vous avez tant voyagé que vous avez besoin de ce recul de la ville et puis d'être au calme, au contact de la nature ?
J'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup la nature. C'est magnifique de vivre à la campagne. Voilà, je peux me promener chaque jour avec mon chien. Personne ne m'embête, plus ou moins. Je peux travailler, j'ouvre la fenêtre, je suis au vert, c'est splendide.
Merci Pavla Jazeirova.
Merci de m'avoir invité.